Le goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé,
amer,
sucré,
ça pique,
fumé,
gras,
pétillant,
umami.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Ça, c'est de bon umami, n'est-ce pas?
Cette espèce de sensation de plénitude.
Une tomate cerise qui explose dans votre bouche, c'est le umami d'été. Le umami tout seul n'existe pas, c'est toujours umami de quelque chose.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 5.
Umami.
Umami, voilà un mystérieux vocable qui provoque des froncements de sourcils et des yeux en l'air dès qu'on le prononce, y compris dans le petit milieu gourmet. Eh oui, l'umami c'est un peu le serpent de mer ou le monstre du Loch Ness. On est sûr qu'il existe, mais on ne l'a jamais attrapé. Dans quels aliments se loge-t-il, à part cette fameuse tomate d'été? On va vous apprendre à détecter cet umami dans plein d'autres ingrédients avec Gabriel Lépouzé, l'un des deux scientifiques qui nous accompagne tout au long de cette série. Il est neurobiologiste à l'Institut Pasteur et fondateur de l'École du Nez. Oui, car l'umami a bien rejoint la liste officielle des saveurs primaires après le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Cette cinquième saveur, je vais aussi tenter de la capturer avec Ipei Uemura, un grand chef japonais installé à Marseille, et j'irai même la mitonner dans la petite cuisine parisienne de l'écrivaine nippone Ryoko Sekiguchi. La recette de saveurs savantes, un tiers de cuisine, un tiers de science, un tiers de culture. On mélange bien dans un shaker avec des extraits de films, des morceaux de littérature, un soupçon de linguistique, et on obtient un cocktail de savoir et de saveur. Je vous le sers bien frais pendant tout l'été. Allez, on fait connaissance avec l'umami, une saveur amie.
Saveur savante. François-Régis Gaudry sur France Inter.
L'umami, c'est à la fois une culture et une découverte, surtout au début du XXe siècle.
Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur.
Par les Japonais, par un chimiste japonais notamment, le professeur Ikeda à l'Université de Tokyo, qui découvre et purifie pour la première fois dans la soupe très traditionnelle du Japon, qui est la soupe dashi, le bouillon de dashi, il isole un composé qui s'appelle le glutamate.
Rappelons juste que le dashi, c'est un bouillon emblématique de la cuisine japonaise, constitué à la fois d'algues, kombu, mais également de bonites séchées.
Voilà. On prend deux ingrédients différents, et c'est vraiment une base de la cuisine qu'on utilise à la fois comme une petite soupe pour se réchauffer, mais aussi comme base pour pocher des légumes, pour cuire des aliments. C'est vraiment une base de la cuisine. Et on a enfin découvert l'élément de base qui donne à cette soupe cette magie, cette énergie, ce côté sapide, qui est en fait un élément qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments de notre cuisine, y compris occidentale, y compris européenne.
Vous avez prononcé le mot sapide. Ce pourrait être le synonyme français d'umami?
Pas exactement, puisque sapidité, ça veut dire qu'il y a du goût. Mais qu'il y a du goût, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des saveurs, qu'il y a aussi des arômes. Donc là, on voit la difficulté de la langue.
On n'est pas très avancé, quoi.
On n'est pas très avancé, c'est comme umami, on est au milieu du guet. Et ce mot-là n'est pas un bon traducteur, n'est pas un bon équivalent de umami. Ça veut dire qu'il y a du goût. Quelque chose qui est sapide, c'est quelque chose qui a du goût. Et derrière ça, ça veut dire aussi peut-être que quelque chose qui a du goût longtemps, qui persiste, qui a une longueur. Et c'est peut-être là la clé de connexion entre l'umami et la sapidité.
Donc l'umami est de connotation japonaise et en même temps, c'est un goût universel.
C'est un goût universel et c'est pour ça que rapidement, cette découverte a amplifié des connaissances qui se sont recroisées au niveau international. Et c'est seulement dans les années 90 qu'on a enfin accepté que l'umami était effectivement une nouvelle saveur, la cinquième saveur. Et pas facile de devenir une cinquième saveur, il faut découvrir les récepteurs qui fixent cette saveur, il faut montrer que cette saveur est bien identifiée, reconnue, discriminée, et qu'elle active bien notre cerveau de manière consciente. Et tout ça, c'est un long chemin de recherche qui explique pourquoi on arrive à une découverte seulement dans les années 90.
Umami, un mot japonais pour une saveur universelle qu'on peut approcher dans toutes les cuisines du monde, y compris à Marseille. Je vous propose un petit plongeon dans les marmites d'Ipei Uemura, le chef japonais du restaurant Tabi, situé Corniche Kennedy. Et vous allez voir comment Ipei dompte l'umami, pas seulement dans les classiques produits de son archipel natal, mais aussi dans les recettes et les techniques provençales.
Salut!
Comment ça va, Ipei?
Ça va, tu vas bien? Bienvenue à Marseille.
Ton restaurant, voilà. Une grande salle avec quand même vue sur la mer.
Situé en haut de Vallon des Offres.
Tu es vraiment sur la corniche?
Ouais, tu es vraiment à Marseille en fait.
Le paysage, la grande bleue. C'est vrai que je viens te voir pour percer un peu un mystère, qui est souvent un mystère considéré comme japonais. Un fameux mot qu'on entend beaucoup, mais qu'on a souvent du mal à définir, c'est l'umami.
Je pense qu'en France, c'est le premier pays dans l'Europe qu'on a commencé à parler de umami. Donc c'est le umami, c'est le cinquième saveur. Donc c'est ni salé, ni sucré, ni acidité, ni amertume. Le goût umami, c'est d'autres goûts complètement. Donc quand on parle de cuisine japonaise, que j'ai appris au Japon, c'est une cuisine maîtrise goût umami. On trouve plein de plats. Même ici en France, il y a certains plats qui ont goût umami. Mais c'est non cherché, on va dire.
C'est pas un but. T'es en train de dire qu'en France, quand toi, par exemple, tu tombes sur du goût umami, notamment dans des recettes françaises, parce que le umami, il est dans toutes les cuisines, mais que ce n'est pas, contrairement au Japon, une intention ou un but.
Tout à fait. Donc, c'est pas exprès, quoi. C'est pas sublimé de goût umami. Par exemple, plat que tout le monde connaît, c'est bœuf bourguignon. Je sens beaucoup de umami. De fond de veau, fond de volaille, de bisque, tout ça. C'est un goût umami, en fait. Et les cuisines japonaises, quand on fait un plat, il y a plein de goûts et plein de savoirs, de épices, tout ça. Mais on enlève les gras de poisson, le sang de poisson. On enlève tout ce qu'on n'a pas besoin pour mettre goût umami devant. C'est une particularité de cuisine japonaise. Umami, ça fait avec trois éléments de protéines. Glutamate, acide inosinique et acide gallinique. Donc c'est trois éléments qui ont un goût umami. Quand on dit l'acide, ça fait goût acidité, qu'on peut imaginer tout de suite, mais c'est juste formule de scientifique.
Et ça, ce goût umami, on n'a pas appris ce goût umami à l'école, ça ne fait pas partie de notre éducation gustative. Où est-ce qu'il se trouve ce goût, en fait, dans quels ingrédients? Évidemment, il se trouve au Japon, mais tu vas aussi nous montrer qu'on peut retrouver le goût umami avec finalement des ingrédients locaux.
Tout à fait. Comment on trouve le goût umami? Alors, bon, dans le fromage, parmesan, des poissons, la viande, certains légumes comme tomates, asperges, brocolis, champignons séchés, porcino, le séché, c'est goût umami pour moi.
C'est ça. Le cèpe, il est porteur d'umami.
C'est ça, il est porteur d'umami. C'est des goûts aliniques, en fait. Donc, la viande, tout ça, c'est inosinique. Et des kombu, des algues. Des kombu, des oignons, de parmesan, c'est glutamate.
C'est ça.
En fait, le premier rencontre de goût umami avec les gens, c'est de lait de maternelle. Donc dans le lait de maternelle, il y a plein de glutamate dedans. Et forcément, quand on déguste du plat à base de goût umami, c'est agréable. Très agréable.
D'ailleurs, je crois qu'en japonais, ça veut dire délicieux.
Bah, exactement. Umami, c'est délice. Donc délice de ingrédients, chaque ingrédient.
Et comment tu expliques qu'au Japon, c'est une notion qui est finalement assez connue, assez familière, c'est-à-dire que toute personne au Japon, il peut, lorsqu'il déguste un plat, ressentir l'umami.
Je sais qu'on boit beaucoup de soupe miso, mais c'est une goût umami ça, c'est goût umami. Donc dans l'expérience depuis qu'on est né, on est habitué de ce goût, et même conversation dans la famille, tout ça, « Ah, ce plat, il y a beaucoup d'umami ». Donc on a...
Dans les conversations en famille, on se dit « Ah tiens, là, il y a beaucoup d'umami, etc.
Ouais, » C'est ça. On sait parfaitement, naturellement, ce que c'est, en fait.
Est-ce que tu pourrais me décrire la sensation quand tu dégustes quelque chose d'umami, un morceau de parmesan vieux ou une bonne soupe miso, etc. Qu'est-ce que ça crée dans le corps? Qu'est-ce que ça crée dans la bouche?
C'est bonne question et c'est dur de dire. Agréable. Le goût absolu, la paix, pour moi. C'est un goût, la paix, c'est agréable, ça donne sourire, souriant. Et on sent qu'on vit et sur la Terre, c'est une planète.
Je t'ai lancé un défi, un challenge, qui serait d'essayer d'approcher ou de dompter l'umami. Mais avec un minimum de produits japonais ou pas du tout de produits japonais.
Ouais.
Et ça, c'est possible.
Bien sûr, c'est possible. En fait, mon restaurant Tabi, ici, c'est ce que je fais en fait. Je travaille avec produits locaux, avec mes techniques japonaises. Donc techniques japonaises, découpe du poisson, comment on tue le poisson, bien sûr, et surtout comment on tire le goût umami.
J'aime bien l'expression tirer le goût umami. C'est-à-dire qu'il faut, aller le chercher.
Il faut aller le chercher, merci. Il faut aller le chercher, il faut mettre lumière, lumière sur le goût umami.
On va se mettre en cuisine, je te suis, il paye.
Ok, pas de problème. Allez, ouais, on y va.
Feu de bois, tu cuisines avec le charbon?
je travaille avec charbon pour les grillés de poisson, fumer. C'est très nécessaire pour ma cuisine. Voilà, c'est bien. Voilà. Après, j'ai préparé quelques ingrédients.
Génial.
Pour savoir où il y a de l'umami. Donc, de l'asperge, de pertuis, c'est le produit local. Et j'ai pris les champignons, le pleurote local, qui pousse lycée agricole de Madrague. Donc, c'est produits locaux. Et des poissons de ici, bien sûr. Wow. Parce que c'est pas loin, hein, c'est pas compliqué de chercher les poissons ici. Hein. Et des parmesans, que tu le vois.
Ah ouais, génial.
Aussi, parce que parmesan, il y a plein de glutamate. Hein. C'est des champions de umami pour moi.
Si les gens ils veulent faire une expérience à la maison, pour essayer de ressentir la sensation umami, ils peuvent mâcher, croquer un morceau de parmesan.
Aussi. Après, première rencontre de umami ici en France avec moi, c'était tartiflette. Tartiflette. Ouais, c'est une goût umami pour moi.
Voici tous les produits.
Waouh! Alors raconte-moi ce qu'il y a là.
Des shiitake marseillais. Donc champignons japonais qui a été cultivé ici.
Alors ceux-là, ils sont frais, hein?
Ils sont frais. Donc j'ai préparé, déjà séché, nous-mêmes. Et ça, c'est le poisson, la lotte locale, méditerranéen. Et le lot séché, nous-mêmes.
Et là, le fait de sécher un poisson, là aussi, ça concentre la saveur umami ?
Ça se développe le glutamate. Ça se concentre, ouais. Et l'ail noir fermenté, qui vient de Toulon. Avant de faire les plats, j'ai juste préparé du umami. Donc, celui-là, c'est du jus d'asperge. J'ai blanchi d'asperge, j'ai écrasé. Et j'ai récupéré juste le jus. Donc, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. C'est alors, pour toi. Le jus d'asperge.
Là, on a un petit verre et je vais me faire un shot de jus d'asperge. Waouh!
Donc, c'est de l'umami. C'est de l'expiration de l'umami.
Il y a la suavité et la légère amertume de l'asperge. Et en même temps, il y a un truc en plus, c'est ça l'umami, c'est qu'il y a une espèce de profondeur.
Profondeur.
Quelque merci. Chose de très.
Ouais, profondeur.
Qui va loin.
Va loin, tout à fait.
C'est un régal, ça.
C'est bon, ça. Ah, et donc, mais... imaginez, on ajoute ça dans un sauce de poisson ou la viande, on ajoute ça, c'est-à-dire qu'on ajoute l'umami de l'asperge. C'est assez facile. Donc, je vois que plein de restaurateurs, tout ça, qui cherchent le kombu, des bonites séchées, des produits japonais pour se battre. On a bon produit ici, notre terroir, et pourquoi pas ne pas utiliser ça.
Non. L'umami est à côté de chez soi.
C'est ça, ouais. Ou m'a mis sur place, quoi.
L'umami est à côté de chez soi, y compris au fourneau de Tabi, ce restaurant marseillais qui vaut vraiment le détour. Ça vous fait envie ?
Ça fait envie, ça fait saliver. Et puis, on comprend que l'umami, c'est une saveur qu'il faut travailler, qui se développe avec le temps. Avec le temps du travail de cuisson, il faut extraire, il faut tirer l'umami, comme il a bien dit. Et qui se développe dans le temps de la dégustation. C'est quelque chose qui prend du temps à se développer. Donc, apprenons à goûter l'umami, prenons le temps.
Savante, saveur. Saveur, savante.
Umami.
François-Régis Gaudry sur France Inter.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. À niveau tour à temps.
Quand c'est tombé, 5 secondes pour manger. Si c'est gâté, qui va se régaler? Qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. We'll be right back. jusqu'à Panam City. Féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux sont armés. Tous les défis simplement relevés. Manches retroussées, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé.
La vie est belle, du trio Fixie, Nicolas Giraud et Jojoa, trois disciples de l'immense batteur nigérian Tony Allen, malheureusement disparu du Covid en 2020.
Saveur savante sur France Inter.
Gabriel Lépouzé, chercheur à l'Institut Pasteur, spécialisé dans les perceptions sensorielles.
L'élément qui stimule l'umami, ce sont la présence notamment d'acides aminés, qui sont les bases, les briques qui composent nos protéines. Et les protéines de la viande, les protéines du lait, les protéines végétales, du soja par exemple. Et donc, pour que ces protéines se cassent et libèrent ces aminés, il faut qu'il y ait un processus de dégradation, décomposition, qui peut être par fermentation, qui peut être par cuisson, par maturation, par vieillissement, par affinage. Tout ça va contribuer à la libération. C'est pour ça que le temps est clé dans la libération de l'umami. C'est ça qui va libérer ce fameux glutamate. Glutamate monosodique, un des 21 acides aminés qui composent nos protéines. Et donc, nous aussi, on est plein de protéines. Donc, quelque part, la saveur umami, c'est la capacité de détecter dans notre alimentation des composés qui vont être essentiels pour notre corps, qui vont être essentiels pour nos propres protéines. Le goût umami, Ipay l'a bien dit, c'est le glutamate, certainement, mais c'est aussi d'autres composés qui sont libérés par d'autres aliments, notamment végétaux, qui sont notamment des nucléotides, qui sont les briques qui composent l'ADN, l'ARN, tout notre matériel génétique. Et ces composés-là, on retrouve le guanylate monosodique, l'inosinate monosodique, qu'on trouvera parfois dans les ingrédients qui sont ajoutés, quand ils sont ajoutés de manière pure et de synthèse.
Donc le glutamate n'est pas le seul composé responsable de la saveur umami?
Tout à fait. À lui seul, il est capable de l'éveiller, on est capable de la reconnaître, mais en fait, dans la culture empirique de la cuisine et de la recherche de l'umami, on voit qu'il y a plusieurs ingrédients qui, ensemble, entrent en synergie et s'ajoutent les uns les autres pour renforcer cette saveur.
Donc si on schématise un peu, le goût umami par excellence dans la gastronomie japonaise, ce serait le bouillon dashi ou la soupe miso, auquel chacun peut assez facilement se frotter finalement, même en France. Pour les Italiens, ce serait le parmesan. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un champion de l'umami, le parmesan?
C'est carrément un champion de l'umami. C'est un champion comme tous les autres fromages qui sont affinés longtemps. Mm-hmm. Et sur la table, si on a un petit bol de parmesan pour mettre sur les pâtes, c'est un condiment, mais c'est plus que ça. C'est quand même aussi beaucoup de parfum. Mais effectivement, c'est un champion de l'umami dans la cuisine occidentale et italienne.
On évoque le parmesan, mais si on est un peu chauvin, ça marche très très bien avec un comté bien affiné, avec bon nombre de fromages français.
Exactement. Alors, il faut chercher ici des fromages qui ont un affinage prolongé. Mmh. Comme le parmesan qui est affiné pendant très longtemps, chercher des comtés qui sont pas des comtés fruités, mais des comtés de 24, 36, 40 mois où la matière organique, la protéine, a commencé à se dégrader avec l'affinage.
Pour essayer d'approcher, de dompter l'umami à la maison, est-ce qu'on pourrait proposer une expérience qui permettrait de ressentir l'effet de l'umami dans la bouche, dans le corps?
une bonne façon d'expérimenter l'umami à la maison et de le construire et de l'extraire avec des produits français, c'est de travailler sur ce poulet rôti que vous avez choisi de faire pour dimanche. Et au moment de débarrasser et au moment de jeter tous les restes, les os, les peaux, etc., plutôt que de les jeter, mettez-les dans une casserole, tassez-moi tout ça, rajoutez un peu d'eau, on rajoute pas de sel, pas d'acide, rien du tout, et on laisse cuire ça pendant 2-3 heures. Vous avez le temps là de servir le fromage, de prendre le dessert, le café, et au bout de 2-3 heures, ça va réduire, et vous allez goûter ce bouillon, et vous allez avoir l'impression que le bouillon au départ ne goûte rien, puis d'un coup cette salinité va être envahissante, va monter en vous, c'est l'umami qui vous parle, qui va stimuler et qui va persister en bouche avec cette côté enveloppant, caressant. Voilà de l'umami pur que vous allez pouvoir utiliser pour un bouillon ce soir, parce que le repas était un peu trop roboratif de dimanche, ou bien pour une petite soupe, ou bien, bien sûr, pour mon risotto.
Il y a de l'umami à fond les ballons dans le très français et très réconfortant bouillon de poule. Mais cet umami, on peut aussi l'expérimenter dans des contrées bien plus lointaines. Sur les terres froides de la Russie, le philosophe allemand Walter Benjamin s'est un jour réchauffé avec un bortsch, cet épais potage à la viande et à la betterave. Cette dégustation fut pour lui une révélation. Il la raconte dans Images de pensée, un recueil d'essais, de brèves et de récits parus dans différents journaux entre 1925 et 1935. C'est un texte que m'a fait découvrir l'autrice japonaise Ryoko Sekiguchi.
D'abord, il pose un masque de vapeur sur tes traits. Longtemps avant que ta cuillère humecte ta langue, tes yeux pleurent déjà, tes narines ruissellent de borscht. Longtemps avant que tes entrailles ne soient éveillées et que ton sang ne soit un flot recouvrant ton corps d'écume odorante, tes yeux ont déjà bu au rouge débordement de cette assiette. À présent, ils sont aveugles à tout ce qui n'est pas le borscht ou son reflet dans les yeux de la compagne de table. C'est la crème, penses-tu, qui donne à cette soupe son éclat velouté. Peut-être. Mais je l'ai mangée dans l'hiver moscovite. Et je ne sais qu'une chose. Il y a de la neige dedans. Des flocons rougeâtres fondus. Une nourriture, des nuages semblables à la manne qui, elle aussi, est un jour descendue d'en haut. Et comme la chaude coulée désagrège la miette de viande pour ménager en toi un champ retourné d'où tu arraches facilement la petite herbe affliction avec ses racines, laisse la vodka de côté sans y toucher, ne porte pas le couteau sur les piloches. Alors, tu apprendras le secret de la soupe qui, seul entre tous les plats, a le don de rassasier doucement, de t'imprégner petit à petit.
Ça, c'est de l'umami, ça. Ça, c'est de bon umami, n'est-ce pas?
Carrément. Cette espèce de sensation de plénitude.
Bah oui, et qui arrive d'une couche à l'autre, et puis qui apporte aussi plein d'images. Je pense que c'est le meilleur façon de consommer le umami avec son ambiance moscovite. Chaque lieu a son umami, n'est-ce pas?
Gabriel Lépouzé, est-ce que vous pourriez nous expliquer en des mots simples comment notre corps détecte cet umami? Quels sont les petits radars? Quels sont les organes gustatifs qui entrent en jeu?
Encore une fois, ces petits radars, il faut les chercher à la surface de nos papilles gustatives, ces fameux petits bourgeons du goût, ces petites taches rouges qu'il y a à la surface de votre langue. Et parmi ces cellules qui composent les bourgeons, on a des cellules qui portent un récepteur. Un récepteur, donc cette petite cellule qui va fixer cette molécule de glutamate. Récepteur qu'on a découvert dans les années 2000 et qui va être capable de reconnaître le glutamate, mais aussi d'autres composés qu'il va reconnaître. La reconnaissance se passe comme une clé avec une serrure, puis le message électrique est transmis au cerveau et va générer un message à la fois de plaisir, mais à la fois de reconnaissance de cette saveur.
Délicieux, bien-être, agréable, on est en paix. Comme disait Ipei.
On cherche le plaisir et on cherche aussi le confort de bouche. Il faut se rendre compte que cette détection de l'umami va déclencher l'activation des glandes salivaires. Et c'est extrêmement important dans le repas d'utiliser l'umami pour cette propension à déclencher le plaisir et le confort de bouche, qui va aussi perdurer longtemps. On ne va pas prendre 50 bouchées à la suite. Une fois qu'on a une bouchée, on est presque nourri sensoriellement par l'umami, qui est quelque chose qui va perdurer, qui va être envahissant. Pour moi, c'est une saveur qui est intéressante à construire, parce que justement, en cuisine, elle permet de créer de la persistance. Et quand on a un objet aromatique qui est très persistant, je vais prendre un exemple, comme l'asperge par exemple, ou prenons un autre, un champignon comme la truffe par exemple. Voilà un objet aromatique qui est très persistant. Comment on fait pour accompagner cette persistance aromatique avec beaucoup de persistance gustative? Ben, on va amener de l'umami. C'est exactement ce qui se passe dans un risotto, un bon risotto à la truffe. Le risotto, pour moi, c'est un exemple d'un objet où on concentre beaucoup d'umami. Du bouillon, et un bon bouillon qu'on va concentrer. À la fin, on rajoute du parmesan, on rajoute du glutamate. Et ben là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour avoir plein d'umami en bouche, plein de persistance, pour aller chevaucher en même temps que la persistance aromatique de la truffe.
Gabriel Lépouzet, quels sont précisément les effets de l'umami dans notre bouche?
L'umami a cette capacité de stimuler la salivation, mais pas la même que l'acidité. On a une salivation qui est plus longue et plus épaisse. Plus longue parce qu'elle met plus de temps à se développer, plus épaisse parce qu'elle est plus riche en protéines, alors que la salivation induite par l'acide est plutôt très fluide, très riche en eau. Ça, c'est un des éléments qu'il faut écouter. Il faut écouter sa salive pour repérer les saveurs, et pour l'umami, c'est essentiel. Si je dois résumer trois propriétés pour l'umami, sa dimension salée, ça ressemble à quelque chose de salé, mais quelque chose qui est très envahissant, qui monte en puissance, qui se développe avec beaucoup d'amplitude, une puissance, une profondeur. Et puis, il y a cette persistance qui perdure même après avoir avalé, qui se succède à quelque chose d'un peu plus enveloppant, caressant, qui est lié à la salivation. Salinité, persistance, salivation, c'est les trois mots qu'il faut retenir.
Mais il y a encore bien d'autres mots français qui permettent de mieux comprendre ce drôle de mot japonais, umami. Notre linguiste Aurore Vincenti les a tous sur le bout de la langue.
Saveur savante, umami, sur France Inter.
En japonais, pour dire qu'une chose est délicieuse, on a au moins deux adjectifs, oishi et umai, qui sont extrêmement courants. Au Japon, il sera donc pas rare d'entendre le premier adjectif dans la phrase suivante. Oishi desu ne. C'est délicieux, n'est-ce pas? Le second, umai, entre dans la composition du mot umami, qui désigne donc cette cinquième saveur primaire. En 1908, le japonais Kikunae Ikeda, chimiste à l'université impériale de Tokyo, détecte cette saveur et la baptise umami. Le mot est formé sur umai, délicieux, et mi, saveur, goût, essence, en japonais. Umami, c'est littéralement saveur délicieuse, en somme, une saveur nommée savoureuse, la saveur au carré, la saveur des saveurs. Il n'est pas toujours évident d'adopter un mot issu d'une langue étrangère, surtout lorsque ce mot désigne une chose qui n'est pas aisément identifiable. Je laisse à nos gastronomes, chimistes et aux maîtres de la gaudriole le soin de l'identification. De mon côté, je m'occupe des mots et c'est déjà pas mal. Il y a eu en français et par le passé, avant même la découverte de Kikunae Ikeda, des intuitions autour de cette saveur et des tentatives pour la nommer. Le mot « osmazome » figurait dans les dictionnaires du XIXe siècle et était reconnu comme donnant son parfum au bouillon, notamment. Le mot « osmazome » n'a sans doute pas eu la gloire qu'il méritait et il a fallu attendre plus d'un siècle pour redéfinir cette saveur, et cette fois par le biais du japonais. Mais si on n'a pas réussi à adopter un mot « osmazome » promu par un grand français au nom fromager, Brillat Savarin, relayé par un autre aussi littéraire que gastronome, Alexandre Dumas, validé par l'Académie française et le Larousse, alors, qu'en est-il d'un mot japonais? Dont on ne comprend pas vraiment le sens, et encore moins les sonorités, aussi étranges qu'étrangères. On aurait pu tenter une traduction. Certains ont pensé à sapidité, mot technique qui renvoie à ce qui a une saveur, mais c'est bien trop didactique par rapport au japonais qui dit quelque chose d'aussi simple, d'aussi beau et évident que saveur délicieuse. Mais il y a bien des choses qui, dans umami, peuvent nous aider à comprendre et à nous identifier. Je n'ai absolument aucune raison de vous raconter ma vie, mais il se trouve que je vais le faire, puisqu'il y a bien longtemps, soit à l'âge de 7 ans, j'ai commencé l'apprentissage du japonais. C'était donc bien avant de devenir linguiste. Cette initiation a duré près de 6 années, à l'issue desquelles je savais surtout raconter mes vacances et dire ce que j'avais mangé et ce que j'en avais pensé. Je vais vous décevoir, j'ai presque tout oublié, mais il y a bien une chose qui a marqué mon univers de petite fille. Et il s'agit du foisonnement onomatopéique dans la langue japonaise, notamment quand il s'agit de parler de nourriture. Alors, une onomatopée, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un mot imitant un son ou un bruit, ou alors un son pour évoquer un état, une émotion, une sensation. Et oui, les enfants aiment bien les onomatopées parce que c'est rigolo. En français, on a bien quelques bruitages en cuisine, slurp, scrunch, évidemment miam, mais ce n'est rien comparé à la langue japonaise. Shaki shaki, croquant et vif. Shari shari, juteux. Hoku hoku, chaud, dense et fumant. Furu furu, gélatineux. Neba neba, gluant. Buyo buyo, gonflé et moelleux. Je m'arrête là, mais sachez que c'est pas terminé. En japonais, il y a des sons à boire et à manger. Vous me direz le rapport avec la choucroute. En effet, ça fait une minute que j'ai glissé umami sous le tapis. Or, umami est un mot que les enfants japonais reconnaissent dès leur plus jeune âge. Aussi, grâce au fait qu'il a, il faut le lui reconnaître, des qualités sonores qui devraient nous parler. Déconstruisons ce mot. Umami, U-M-A-M-I. Déjà, rien qu'avec les deux M, qui sont des consonnes bilabiales, donc qui font se rejoindre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, dites-le chez vous. Dites donc, ça commencerait pas à vous évoquer quelque chose? On continue. On garde les deux M, le I et le A de umami. On chamboule tout et ça donne miam. Miam miam, umami. Et oui, il y a quelque chose d'universel dans le rapport à ce son M pour évoquer le plaisir gustatif, le bruit des mâchoires et de la manducation, soit le fait de mâcher pour manger. En français, comme dans pas mal d'autres langues, le M est particulièrement parlant. Certains chercheurs ont même lié l'articulation du M au mouvement des lèvres chez le nourrisson dans la succion du sein. Celui-ci facilitant l'avènement du mot « maman » dans le vocabulaire de l'enfant. Et je dis « maman », mais aussi « mamie », « mamelle », « mammifère ». Il se trouve, et ceci est bien sûr une coïncidence, que la saveur « umami » est très présente dans le lait maternel. Alors il ne s'agit pas, comprenez-moi bien, d'un plaidoyer pour l'allaitement au sein, mais d'une tentative de vous familiariser avec ce mot étranger qui a pourtant tout plein d'ingrédients qui nous sont familiers. Pensez « miam », « umami » n'est pas bien loin.
France Inter. Saveur savante. François-Régis Gaudry.
Est-ce que vous êtes prêt à goûter des choses avec les yeux bandés?
Oui. Oui.
Alors là, on va d'abord commencer avec quelque chose. Vous allez sentir et me dire ce que ça vous fait.
Oh, ça sent trop bon. Ah, mais tu m'en as renversé sur le doigt, sur ma petite...
Ça pique dans le nez un peu.
Je ne suis pas du tout sûre, mais il me semble que c'est peut-être de la vinaigrette.
On sent.
Ah, c'est de la sauce soja.
Ah oui, ça c'est de la sauce soja. Ça sent hyper bon.
J'adore cette sauce.
Alors, je trouve que le goût est assez agréable en bouche et que c'est un petit peu acide à la fin. Et j'aime bien l'arrière-goût.
Parce que le goût, j'aime beaucoup. Et puis, je dis souvent avec des sushis ou des plats un peu asiatiques. Bah, je trouve que ça rajoute quelque chose et puis c'est bon. C'est un goût satisfaisant.
Moi, j'aime beaucoup la sauce soja, comme avec du poisson, par exemple. C'est quelque chose qui reste longtemps dans la bouche.
Ouais.
On a le goût longtemps qui reste sur la langue.
Gabriel l'épousait. On peut attraper le goût umami dans bon nombre de condiments, comme la sauce soja, mais pas que.
Pas que ? Où est-ce qu'il y a d'autres protéines? On retrouve ça aussi dans des sauces à base de poisson. On pense au nyokmam, par exemple, ou plus loin, au garum, qui était une sauce qui était faite et utilisée en romantique, qui était faite à base de poisson qu'on laissait fermenter.
Les anchois, on conserve?
Les anchois, ou encore mieux, si on reste dans le sud, près de Marseille, la poutargue. Magnifique. Alors objet, là, extrêmement umami, et qu'il faut prendre avec modération, tellement c'est puissant.
Et on rappelle juste que la poutargue, ce sont des œufs de mulet séchés. Une espèce de salaison de la mer qui est effectivement très porteuse d'umami.
Cherchez aussi dans les crustacés, les huîtres. Et puis, là, on a balayé les protéines animales, mais cherchons aussi dans les végétaux. C'est important. C'est là qu'on trouve une autre dimension umami. Et au premier rang desquels, premier végétal qui donne beaucoup d'umami, c'est la tomate. surtout après un long processus de cuisson de concentration. Pensez à la tomate séchée qui a ce petit goût salé. La tomate séchée, elle n'est pas salée au sens du sel. On n'a pas salé une tomate, on l'a juste fait sécher. Ce goût salé que vous allez retrouver qui dure longtemps, c'est l'umami. On trouve ça dans certains champignons, les shiitakes ou plus près de chez nous, peut-être les cèpes, dans les asperges, dans les petits pois, dans certaines algues.
Les morilles.
Dans les oignons, les poireaux et puis les produits lactofermentés qui vont extraire par la fermentation du chou, on pense au kimchi, à la choucroute aussi, des éléments très umami. Dernier point important qui est propre à notre culture très occidentale, les levures. Rarement on la mange directement, sauf si vous l'utilisez en petites paillettes, en petits condiments. Voilà un autre condiment qu'on utilise beaucoup en France. Petites paillettes de levure qu'on utilise sur une salade par exemple. Si vous goûtez ces petites paillettes de levure, vous allez avoir la même sensation que la sauce soja. Au départ, pas grand-chose, puis d'un coup, quelque chose qui est enveloppant, salivant. Et puis en fait, on retrouve ça aussi dans d'autres niveaux. Si on traverse la Manche, on va retrouver ça dans la sauce Marmite des Britanniques, qui est une sauce qui est fabriquée à base de déchets de levure des brasseries, qu'on utilise comme en Angleterre comme un fond de sauce, qu'on trouve aussi maintenant en Australie, dans tous les pays du Commonwealth.
Vous évoquez un mot-clé qui est évidemment le glutamate, qui est responsable en partie de la sensation et de la saveur umami. À une époque, glutamate, ça avait une très mauvaise réputation, notamment parce qu'on considérait ce glutamate comme une espèce de potion magique qui permettait d'exhauster les plats. On a même parlé de syndrome dans les années 80-90, syndrome du restaurant chinois. On suspectait certains restaurants à Paris, en région, de mettre un peu ce glutamate pour renforcer le goût des plats et les rendre agréable. Et le glutamate, on suspectait même de provoquer des nausées, des problèmes digestifs.
Effectivement, dans plusieurs restaurants de cette époque-là, dans des restaurants peut-être qui veulent aller un peu vite, des fast-food chinois, on va les appeler comme ça, certains cuisiniers pas très scrupuleux, plutôt que d'utiliser un bouillon pour faire leur cuisine, ont utilisé un ersatz de bouillon. C'est le début et l'avènement du glutamate de synthèse, qui est un glutamate qu'on purifie par une réaction biochimique.
Un additif alimentaire.
C'est vraiment un additif qu'on purifie, qui est pur à 99%, et donc qui est très pratique. J'en mets un petit peu comme je mettrais du sel, et tout de suite j'ai une illusion de bouillon.
On donne une espèce de relief, en quelque sorte, de profondeur à ce plat.
Alors, ça donne une profondeur, mais est-ce qu'on peut, derrière ça, développer une allergie au glutamate? Est-ce que c'est possible? Tout notre corps est fait de protéines, et dans notre corps, il y a des protéines partout, et donc du glutamate partout. Est-ce qu'on peut être allergique à soi-même? C'est impossible. Impossible parce que notre glutamate est même le neurotransmetteur principal de notre cerveau. Nos cellules neuronales discutent avec du glutamate. Donc avoir une allergie au glutamate, c'est tout simplement pas possible. Donc s'il y a une allergie à chercher, il faut plutôt chercher, pas dans les 99% de glutamate de synthèse que j'ai rajouté à mon pseudo-bouillon, mais plutôt dans les 1% de produits restants qui sont purifiés avec le glutamate, qui semble-t-il pourrait déclencher chez certaines personnes qui ont un contexte allergique des réactions un peu fortes. Il faut aussi que le cuisinier apprenne finalement à s'en passer, l'utiliser pour mieux s'en passer et s'assurer quelque part de faire ses propres bouillons, mais faire un bouillon, ça prend du temps. Et dans certaines cuisines, on n'a pas le temps.
Et ce glutamate de sodium, lorsqu'il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire, il porte le joli nom de E621, c'est bien ça? Donc on peut le traquer sur les étiquettes.
Tout à fait. Mais le mieux, c'est de chercher glutamate monosodique et ses petits cousins qui sont guanylate monosodique et inosinylate monosodique.
Et on peut aussi le trouver dans des petites fioles de condiments, des sauces dont on taira les noms, des petites fioles noires.
On peut dire le nom, ça fait partie aussi d'un élément que les personnes peuvent trouver en rayon et sur lequel ils peuvent se mesurer au goût umami,
c'est Biandox, magie.
La petite sauce magie, effectivement, cette petite bouteille qui a une forme bien particulière. Si vous retournez cette bouteille et qu'on regarde la composition, premier ingrédient eau, deuxième sel, troisième glutamate, quatrième IMT, GMT. Donc on a ici une sauce de synthèse, mais qui a au moins la vertu pédagogique de nous permettre de nous initier à ses saveurs de manière assez pure.
Faire surgir l'umami de là où on ne l'attend pas. Je vous réserve un petit tour de magie en deux temps, trois ingrédients. Juste après, Ain't No Sunshine, Bill Withers.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
know, I 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 know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Savante sur France Inter.
Direction le 20e arrondissement de Paris.
Gambetta.
C'est dans ce quartier du nord de la capitale que je retrouve Ryoko Sekiguchi. Elle est écrivaine, poétesse, traductrice. Elle a signé de nombreux ouvrages dédiés à la gastronomie. Quand je lui ai demandé de m'interpréter en cuisine son idée de l'umami, elle a relevé le défi d'une recette avec trois fois rien, du riz, du sel et du thé vert.
Bonjour Ryoko.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui, on rentre.
Merci beaucoup de m'accueillir, je vais enlever mes chaussures.
Oui.
Tu sais pourquoi je suis là?
Bah c'est pour parler d'umami. Ce mystère, ce grand mystère qui vient de Japon. Bah, Gumo, comme ça, comme une sorte de gentil monstre. Hein.
À toi, tu considères l'umami comme un gentil monstre?
En fait, je considère l'umami comme le chimère qui fait bouger l'aliment. Moi, je vois ça comme ça. Ça change la figure, ça change la forme selon l'aliment dans lequel l'umami se cache.
Ce qu'on ne sait pas forcément en France, c'est que le thé à la japonaise, le thé vert, est porteur d'umami.
Bah, finalement, je pense que c'est rare les aliments donc, qui ne contiennent pas d'umami. Donc, il y a justement des aliments qui contiennent l'umami de façon très expressive, comme la viande, bien comme les tomates. Mais le thé, mais justement, il est rempli de d'acides aminés. Donc, ça dépend de comment on cultive l'arbre. L'umami, c'est le fruit de le corps de l'arbre.
Tu consommes beaucoup de thé?
Non, pas vraiment. Désolée.
Tu es trop française pour ça.
Oui, peut-être. J'ai trouvé en fait une recette donc pour vous aujourd'hui avec le thé. Donc c'est le riz au thé.
Du riz au thé?
Oui. Donc ce qu'on ne sait pas peut-être, donc non seulement on ne sait pas que le thé contient l'umami, mais 70% d'éléments nutritifs du thé ne se dissout pas avec l'eau. Donc, qui reste dans les feuilles de thé, même après avoir bu. Donc, c'est un peu dommage. Donc, le riz au thé, c'est aussi une recette anti-gaspi.
On y va?
Oui, bien sûr.
Là, tu vas carrément peser le thé. C'est quoi comme thé?
Du thé vert. Il y a plusieurs façons de faire le riz. Le riz au thé.
Là, tu as mis combien de grammes?
Alors, donc, pour deux personnes, 10 grammes. On peut faire à la fois le thé, par exemple, au hojicha. On peut faire aussi, donc, en mettant dans un petit sachet, directement dans la cuisson du riz. Comme on le sait, donc, on peut manger. Comme ça.
Une petite amertume, un goût voilà, un peu de légumes aussi.
L'apéro avec le thé. En fait, souvent, on fait la dégustation tout de suite donc en infusant. Mais déjà, on peut goûter pour savoir en fait, si c'est bon ou non. Alors, bon, le riz est fait. Pour deux personnes, ça fait 10 grammes de thé, 1800 centilitres de l'eau. Et donc, porter à l'ébullition. Et ensuite,
Là, tu mets l'eau dans les tasses.
Dans les tasses, d'abord, parce que pour et comme ça, la température baisse. Parce qu'il faut pas que ça soit trop brûlante, donc il faut que ça soit, on dit, enfin, 75 degrés, mais bon, on va pas.
Tu as déjà, donc, tu as versé l'eau dans les tasses pour la refroidir, et ensuite.
Ensuite, donc, je le verse dans la théière. Et comme ça, les feuilles sont devenues plus tendres et on peut mélanger avec le riz.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, d'un côté, le thé à infuser, il est de couleur un peu vert pâle et tu l'as versé dans les tasses. Mm-hmm. Mais tu gardes évidemment le thé qui est infusé.
Ça, c'est mon ingrédient. Voilà. Alors, donc, on est dans la cuisine, mais je vous sers. Et comme ça, d'abord, on goûte.
On goûte le thé.
Alors, mais j'aime bien ce côté, justement, j'aime bien le thé un peu plus amer que justement le thé trop sucré, le côté trop chargé. Donc ça, c'est moins chargé, moins d'umami. Donc ça, maintenant, tu as compris, non?
Ouais.
Alors, on regarde les feuilles, donc qui sont déjà un peu vertes, un peu tendres. Et hop.
Mais ça, c'est le thé qui a infusé.
Qui a infusé.
Ça sent bon.
Oui.
Ça sent un peu le. Ça sent. Un peu des notes de légumes, je trouve.
Oui, un peu épinard, un peu. Enfin, le légume. Alors, on va mélanger avec un peu de sel.
C'est un sel japonais?
Oui, c'est du sel d'Okinawa. Qui est très, très fin. Et donc, comme ça, disons qu'on assaisonne les feuilles de thé.
Mmh, avec du sel fin.
Oui.
Et tu as des baguettes pour mélanger ce thé infusé.
Et là, ces feuilles sont assez. Pas trop grosses, mais on peut éventuellement, par exemple.
Tu éminces le thé, en fait.
Comme les herbes aromatiques. Mon rivet.
Les herbes aux cerises. Le rice cooker, c'est vraiment la façon qu'utilisent tous les Japonais pour cuisiner, pour cuire le riz.
Alors moi, je suis feignante parce que je sais qu'il y a des vraies, vraies bonnes cuisinières, bien sûr, qui le préparent avec les marmites, enfin. Mais bon. Alors, vous mettez d'abord un peu de feuilles de thé au fond de votre bol et sur lequel. Voilà, vous recouvrez les feuilles de thé avec le riz fumant. Et donc, comme ça, donc, si vous avez du thé tout frais, de bonne qualité, vous pouvez faire comme ça, sans infuser. Et ça reste du côté, en fait, croquant, mais légèrement chauffé par le riz. Et ça, c'est bon, non?
C'est joli.
Donc, on dirait. Je ne sais pas, la cuisine iranienne avec le riz et les herbes.
Merci.
Est-ce que c'est la première fois que tu manges le riz au thé?
Oui.
Alors?
J'adore.
Après, donc pour changer un peu de goût, par exemple pour la deuxième, troisième bouchée, vous pouvez ajouter les condiments que vous voulez. Donc par exemple, là j'ai mis sésame, mis un peu dans la sauce de soja et torréfié. Ça, vous ne le mettez pas dès le début. On peut avoir mais vraiment du thé frais et avec plein de saveurs qui remontent dans la narine. Et justement, ça c'est le umami à la japonaise. Donc tout à l'heure, le bol, c'était le umami à la russe. Cette fois-ci, c'est le umami à la japonaise.
Génial. C'est à la fois en plus doux et légèrement amer.
Oui, et frais.
Et frais.
Oui. Et moi, ce que j'aime pas de umami, c'est le côté lourd. Alors que ce umami, il est aérien. Je pense que le umami japonais doit être comme ça, pour moi, l'umami idéal à la japonaise.
Régal.
Dès qu'il y a un peu d'umami, bien sûr, on pense que c'est bon, on est rassasié. Mais après, donc, ça cache parfois tous les autres goûts qui sont derrière. Donc, il faut faire très attention à umami. Donc, il faut l'utiliser justement comme pour faire apparaître les nuances des autres goûts, mais pas le umami lui-même. Umami, on peut être tout de suite addict à umami parce que on ne peut plus s'en passer et on en veut de plus en plus. Et il y a des gens qui sont vraiment drogués, des Japonais. Une fois qu'on est habitué à umami, une certaine quantité d'umami, on ne peut plus s'en passer. Et en fait, le problème, c'est que sans ce umami, on pense que ça n'a pas de goût. Alors que tout aliment a du goût. Je pense que tout dépend aussi, même en croquant en plein été une tomate cerise qui explose dans votre bouche, c'est l'umami d'été. Le umami tout seul n'existe pas, c'est toujours umami de quelque chose.
Saveur savante.
Une amie.
T'es sûr?
François-Régis Gaudry.
Ah oui, umami. Ou umami.
Sur France Inter.
Gabriel Lépouzé, comment on peut expliquer cette attirance quasi obsessionnelle pour l'umami?
On a un rapport charnel et maternel avec l'umami. On trouve beaucoup de glutamate dans le lait maternel. Donc c'est notre première boisson qu'on déguste, notre boisson qui garantit notre survie, notre protection et qui nous rappelle et nous associe au confort maternel. C'est une boisson qui est sucrée, gras et umami. Donc ça va avoir un impact fort dans notre cerveau. Et puis l'umami est fondamentalement et de manière innée une saveur qui est plaisante. Un petit peu comme le sucre. Si on prend un petit bébé, qu'on lui fait goûter une boisson sucrée, tout de suite, il va avoir le sourire, de manière réflexe. Ben, l'umami, c'est pareil. On a ce réflexe d'appétence pour l'umami qui est précodé dans notre cerveau parce que c'est une saveur qui a, de notre point de vue, beaucoup. C'est essentiel comme saveur. Faut qu'on trouve ces éléments dans notre nourriture pour pouvoir construire nos protéines de notre propre corps. Donc, c'est précablé dans notre cerveau comme étant une saveur qui peut être plaisante. Et du coup, dans ce plaisir, si on le force trop loin, on devient addict à cette saveur. L'addiction, souvent, elle se manifeste par une appétence sur des produits qui sont malheureusement parfois de synthèse, où on va utiliser plus le glutamate que l'esprit de la fabrication de l'umami. Donc là encore, attention, peut-être se repencher sur qu'est-ce que je goûte et identifier ce que je goûte plutôt que d'aller chercher uniquement la saveur et le plaisir qu'il y a derrière.
S'il fallait imaginer un totem de la cuisine estivale, très porteur d'umami, on pourrait s'orienter vers quoi?
Pour cet été, une boisson rafraîchissante mais qui est umami, qui va être salivante et qui va prolonger la dégustation. Jus de tomate où on a concentré par la tomate et par l'extraction cette saveur umami, auquel on va rajouter peut-être un soupçon de sauce soja pour lui donner un peu plus de corps. Et puis un peu un extrait de céleri, une branche de céleri par exemple. La branche de céleri, quand on la croque, on a cette salinité en fin de bouche. Je devrais dire umami parce qu'en fait c'est de l'umami qu'on ressent. Et les deux vont très bien ensemble. Et voilà un petit cocktail rafraîchissant, sans alcool, qui sera parfait pour accompagner l'été.
Un bon jus de tomate, et pourquoi pas maison, en pressant de belles cœurs de bœuf gorgés de soleil, avec, allez soyons fous, un trait de vodka, quelques gouttes de tabasco, une larme de Worcestershire sauce, et vous obtenez le fameux Bloody Mary, cher à Ernest Hemingway. Surtout, vous n'oubliez pas le bâton de céleri branche, pour mélanger, mais aussi pour condimenter l'affaire. À la première gorgée, vous allez crier « Umami !» Nos infos pratiques, nos recettes et les podcasts des épisodes de la série sont à retrouver sur franceinter.fr à la page Saveur Savante. Saveur Savante, une série réalisée par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à la préparer. Prise de son, Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufils et Florian Dorimini. Programmation musicale, Djoubaka. Saveur Savante, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 6.
Épicé.
On se retrouve demain dimanche à 11h pour une rediffusion dont on va déguster, dédiée à une plante à la fois légumes, herbes aromatiques et épices, le fenouil. C'est l'été, salivez sur France Inter.